Bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Ciel. Vous écoutez l'émission Capital, animée aujourd'hui par
Christine Affota
et Elisabeth Couget, avec l'aide technique précieuse de Simon Martin.
Merci Simon.
Nous partons aujourd'hui pour une destination assez mystérieuse, mais qui s'ouvre depuis peu au tourisme.
Oui, car pendant bien longtemps, elle n'a été accessible que par mer, ou plus difficilement, à dos de dromadaire. Direction l'Arabie heureuse, le pays d'Oman, et Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Oman est situé au sud-est de la péninsule arabique, le long du golfe d'Oman à l'ouest, et s'ouvrant sur la mer au sud à l'ouest. Les pays frontaliers sont les Émirats et l'Arabie saoudite à l'ouest, et au sud-ouest, le Yémen.
Voilà, alors ça serait sûrement très intéressant puisque très peu connaissent cet endroit-là, hein, et surtout pas Mascate. Alors Oman présente un visage bien différent de ses riches voisins, il me semble.
Exactement, beaucoup moins d'opulence, moins d'étalage de richesses, et pour cause, il y a beaucoup moins de ressources pétrolières à Oman.
Comme dans que des autres pays du Golfe. Hein.
Oui.
Alors voilà, alors c'est un pays qui voilà qui a un capital au nom assez étonnant qui s'appelle Mascate.
Mascate. Rappelons d'abord qu'Oman a à peu près 300 000 km², donc c'est un pays quand même assez
relativement grand. Hein.
Voilà, mais peu peuplé, il n'y a que 4,5 millions d'habitants et 1,5 million dans la capitale, Mascate.
Alors, Mascate, c'est assez amusant. Que veut dire Mascate ?
Mascate. Alors, en anglais, c'est muscat. On peut penser au raisin muscat.
Oui.
Et le sens de ce nom, c'est un lieu sûr pour les bateaux de mouillage.
Mm-hmm.
Ptolémée, tu connais sûrement
oui,
de nom, l'astronome grec du 2e siècle avant Jésus-Christ, et d'ailleurs sculpté dans une voussure du portail royal à Chartres, Ptolémée fut le premier à faire référence à cette cité, Mascate, qu'il décrivit comme un port abrité, justement. Mascate, c'est une charmante capitale sur la mer, à taille humaine, qui s'étire sur 40 km, nichée entre la mer et les montagnes, avec des vieux forts en sentinelle sur les rochers.
Là, il valait mieux pour se protéger à une période donnée qui était...
Surtout sur la mer.
Exactement. Donc, voilà, c'est un pays bien différent, une capitale très différente des Émirats voisins. Hein.
Oui, voilà, on insiste, car ici, pas de haute tour, pas de gratte-ciel vertigineux comme un Dubaï ou à Abu Dhabi. L'architecture est restée traditionnelle avec des coupoles et des fenêtres à moucharabiais. Mm-hmm. Tu vois les grillages de bois
oui,
décoratifs.
Souvent très joliment sculptés.
Exactement, c'est très joli. Et Mascate est située donc dans un cadre grandiose, une chaîne de montagnes qui domine la mer. C'est une ville séduisante, harmonieuse, avec des parcs d'une propreté immaculée. On peut rêver. Et bien sûr, la mer y joue un rôle essentiel pour la pêche et pour les plages.
Alors, comme elle est entourée de montagnes, elle est restée inaccessible par voie terrestre pendant des siècles.
En effet, les premières implantations sont très certainement arrivées par la mer, probablement des tribus du Yémen. Les peuplements les plus anciens du pays d'Oman remontent très très loin au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est alors l'époque de l'empire de Magan qui est en relation avec la Mésopotamie et qui exploite les riches gisements de cuivre. D'ailleurs, Oman est appelé à ce moment-là la montagne de cuivre.
Mmh.
Vers 563 avant Jésus-Christ, le pays en déclin est intégré à l'empire perse.
Alors, Oman est surtout connu pour l'encens.
L'encens. Et cela aussi dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Oman doit en fait sa propriété à l'encens, qu'on appelle aussi Oliban. Je ne sais pas si tu connais ce nom.
Ben non, je ne connaissais pas sous ce nom-là.
Oliban, en fait, vient de l'arabe, qui est le mot pour dire encens, c'est Al-Louban, donc Oliban. Alors, l'encens est une gomme, une résine, en fait, aromatique, issue de la sève d'un arbre qui s'appelle le Boswellia sacra. Et la récolte de cette résine continue de nos jours.
C'est ce qu'on appelle peut-être la gomme arabique.
Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait la gomme arabique, parce qu'il y a d'autres différentes sortes de gommes. Là, c'est une gomme aromatique, en fait.
D'accord.
Et donc, cet encens a été échangé contre des épices indiennes et transporté par des caravanes à travers l'Arabie pendant des siècles, des millénaires même. Et c'était l'une des denrées les plus recherchées du monde antique. Et l'encens fit la fortune, donc, du sud de l'Arabie.
Alors, tellement précieuse que la mythique reine de Saba en offrit à Salomon.
Et que c'est l'un des cadeaux offerts par les rois mages.
Oui.
Balthazar, on s'en souvient, offrit de l'or pour symboliser la royauté de Jésus. Melchior, c'est Melchior donc qui offrit l'encens dont on se sert pour honorer Dieu. En fait, on connaît le mot encenser, encensoir. Mm-hmm. Et qu'on trouve d'ailleurs, c'est un rituel millénaire et universel. Et le symbole de l'encens, c'est donc pour honorer la divinité de l'enfant Jésus. Et quant au troisième roi mage Gaspard, il offrit la myrrhe, qui sert à embaumer les morts. Et on trouve aussi beaucoup d'arbres à myrrhe à Oman, qu'on appelle aussi balsamier. Mm-hmm. Ça peut faire penser au vinaigre balsamique.
Oui, on...
Voilà.
Il faudrait qu'on vérifie ça un jour.
Ce sont des petits arbustes aux branches écailleuses. Et en fait, le tronc a des nœuds. Et de ces nœuds qu'on incise, on sort des petites larmes jaunes de myrrhe. Voilà. Donc, mm-hmm. Gaspard apporte la myrrhe. Et la myrrhe est censée nous rappeler que Jésus est homme et donc annonce sa mort sur la croix. Dans la Bible aussi, on fait mention d'une cité mystérieuse, la cité de Ubar, la cité aux 1000 piliers. Et cette ville légendaire a suscité la curiosité des explorateurs pendant des siècles. Et figure-toi que ces vestiges auraient été découverts à Oman dans les années 1990 par un explorateur britannique.
Donc, pas si longtemps.
Oui, on trouve toujours, on découvre toujours des choses dans le monde.
Incroyable. Hein. Alors, l'islam va arriver à Oman. Oman, pardon, oui, il y en a qui disent Oman, Oman, c'est plus joli peut-être, ouais. Oman. Donc l'islam arrive à Oman au 7e siècle, comme à peu près partout, hein. C'était la période où il s'est allé.
Oui, et Oman va passer près d'un demi-millénaire sous la dynastie des Banis, 500 ans.
C'est énorme, hein.
Le modeste port de Mascate est délaissé à ce moment-là au profit de la dynamique ville de Sohar, qui est un peu plus au nord, mm-hmm. et qui est la ville natale d'un certain Sinbad le marin.
C'est étonnant. Et c'est le voyage, quand même.
Oui, vous avez sûrement entendu parler.
Bien sûr.
Et pendant cette longue époque qui va de 1154 à 1624, les guerres civiles sont fréquentes entre la famille régnante et les tribus, ce qui fragilise Oman et la rend vulnérable aux agressions extérieures, dont les Portugais. Mmh. Car Oman est sur la route des navires marchands à destination de l'Inde et attire leurs convoitises. Les Portugais lancèrent une succession d'attaques contre les ports d'Oman et finirent par occuper en 1507 les principales villes d'Oman, dont Mascate. Et c'est d'ailleurs un marin d'Oman qui aurait aidé Vasco de Gama à doubler le cap de Bonne-Espérance en 1498, facilitant ainsi, sans le savoir, l'invasion portugaise quelques années plus tard de son pays.
Et voilà, toutes bonnes actions ne sont pas à faire, si on peut dire. Alors, sous la domination portugaise, on va construire des murs d'enceinte. Et des forts pour se protéger.
Beaucoup, beaucoup de forts, puisqu'on appelle Oman aussi le pays aux 1000 forteresses. Uh-huh. Et bien sûr, on les trouve un peu partout, et à Mascate, la capitale. Les Portugais laissèrent peu de vestiges, mais l'architecture militaire portugaise marqua la construction des forts d'Oman. Oman va lutter contre les Portugais pendant 150 ans. Ils sont chassés en 1650.
Et à cette date, ils ont signé la fin de la domination portugaise dans le Golfe. Quand Mascate est-elle devenue la capitale d'Oman ?
En 1793. Bon, en France, c'est passé tout à fait inaperçu, on pensait à autre chose,
oui,
à ce moment-là.
Exactement, nous étions pleins de révolutions.
Voilà, mais à ce moment-là, donc fin 18e siècle, Oman est un État unifié à la richesse et au développement considérable. Un empire de belle taille qui règne sur les mers et contrôle des lieux stratégiques sur la côte africaine, notamment Mombasa et Zanzibar. Au XIXe siècle, l'empire est partagé en deux après la mort du sultan Saïd. L'un des fils du sultan devint le sultan de Zanzibar et régna sur les colonies africaines. L'autre devint le sultan de Mascate et régna sur Oman.
C'est vraiment tous des endroits absolument...
Ça fait rêver ces noms-là.
Oui, ça fait rêver, c'est formidable. Et Oman reste relativement impénétrable aux influences extérieures pendant de longs siècles, très très longtemps, et vraiment jusqu'en 1970. Alors on va pouvoir rêver à cet endroit assez fabuleux.
Si mystérieux, pense-t-il
longtemps. Voilà, exactement, et en vous proposant une petite pause musicale.
Où nous imaginons à dos de dromadaire.
Nous revoici en train de partir à Oman avec comme guide Christina Fauta sur les ondes de Radio Grand Ciel.
1970. Cette année-là, le sultan Saïd ibn Taymour, qui était hostile aux innovations, isolationniste, coupé du monde moderne, est renversé par son fils unique, Kabou, lors d'une révolution de palais. Kabou est relativement grand seigneur, puisqu'il envoie son père finir ses jours à Londres, au Grosvenor Hotel. Il y a pire comme réclusion.
Oui, il n'était pas enfermé, il n'était pas en prison.
Non, il était juste exilé.
C'est pas normal d'expédier son père en dehors du pays, mais quand même, voilà. Et bien voilà, et du coup, il aura le chemin libre pour accomplir des changements fantastiques, donc il est confronté à d'immenses défis, parce que ce n'est pas rien.
Exactement, donc une économie, il trouve une économie quasi féodale, et donc il doit également faire la mise en place du système d'éducation et de santé qui n'existait absolument pas, etc. Il a relevé tous ces défis avec succès. Aujourd'hui, le pays est pacifié et moderne, en 50 ans. La population est éduquée et connectée au monde, le niveau d'instruction est élevé, les femmes qui ne sont pas obligées de porter le voile sont représentées partout, y compris au gouvernement, et le taux de criminalité est très faible.
Eh bien, c'est merveilleux. Une bonne gouvernance intelligente, pragmatique, qui vont arriver pendant les 50 ans de règne de ce sultan Kabou.
Alors, comment régnait le sultan Kabou? Chaque année, il effectuait une tournée dans le pays, au cours de laquelle il campait en compagnie de ses ministres dans les différentes régions sous détente, afin d'être à l'écoute des besoins sur le terrain. Les Omanais viennent à dos de dromadaire lui présenter leurs doléances et lui offrent des chèvres. Il est accessible, il tient ses promesses avec la volonté de tolérance et de dialogue. C'est une monarchie absolue. Mais ce n'est pas une dictature, les droits de l'homme sont respectés.
Quel bel exemple! Et aujourd'hui?
Le sultan Kabou n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. Il laissa une enveloppe secrète, mystérieuse, à ouvrir après sa mort, où il désignait son successeur. Il est mort le 10 janvier 2020, et parmi plus de 80 membres de sa parentèle, c'est un de ses cousins, Haitham Ben Tariq, qui devient le nouveau sultan.
Alors, nous voici donc à Mascate.
Et commençons par une promenade sur le littoral, le long d'une ravissante corniche, jalonnée de maisons à moucharabiés et de mosquées. Voici le célèbre marché aux poissons. Les pêcheurs vendent leur pêche chaque matin et c'est l'occasion de découvrir l'incroyable richesse des fonds sous-marins d'Oman. Puis, le musée Bait al-Baranda, où nous pourrons connaître le passé d'Oman depuis la préhistoire et même découvrir un dinosaure recréé à partir d'ossements qui ont été découverts. C'est un beau musée dépouillé, tout blanc, avec beaucoup d'espace et de lumière, vraiment une vitrine culturelle du pays et la visite est très agréable.
Alors, en sortant de ce beau musée, on peut flâner sur les quais
et voir souvent le bateau du sultan, qu'on appelle un dhow, D-H-O-W, un boutre en fait, un bateau à fond plat, amarré non loin. À remarquer les maisons des Lawataya, des marchands qui doivent leur prospérité au commerce maritime.
Alors leurs balcons sont tous tournés vers le Rhin d'origine, de l'autre côté de la mer.
Oui, pour se souvenir de leur pays d'origine.
Belle vue donc sur la mer. Voilà.
Et d'ailleurs, au coucher du soleil, c'est vraiment un beau spectacle. Les montagnes dentelées jettent leur ombre douce sur les rues pavées ponctuées de fontaines.
Alors, en partant de là, nous approcherons des souks.
Le souk, il est fabuleux, vraiment, à Mascate. Et il rappelle le passé marchand d'Oman. C'est un souk labyrinthique et encore alimenté de marchandises arrivées par la mer, comme les épices et les tissus de l'Inde, des articles d'Égypte, l'artisanat d'Iran. On y trouve aussi des dhows, donc des petits bateaux, miniatures en argent, faits à la main. Joli souvenir.
Bah oui. Ça doit être magnifique. Et c'est un endroit idéal pour acheter de l'encens aussi.
D'ailleurs, un brûle-encens géant rappelle que la prospérité du pays s'est jadis bâtie sur l'encens, et en particulier dans la région du Dhofar, au sud. Dans le souk de l'or se succèdent les échoppes scintillantes des bijoutiers. Les parures de mariés valent leur pesant d'or. Ce sont des kilos d'or, vraiment, fastueuses ou clinquantes, hein, selon les goûts. On voit aussi un fort portugais à trois tours qui domine l'extrémité du port sur un rocher. Et nous arrivons dans le vieux Mascate. C'est là que se trouve le palais du sultan, surprenant, coloré, avec ses ravissantes colonnes bleues et or. D'autres musées qui sont, on peut dire, excellents, comme par exemple le musée franco-omanais, et qui est précieux pour comprendre les liens avec la France, qui datent de Louis XIV quand même.
Oui, c'est pas bien.
Mais oui. Et puis il y a d'autres forts, je rappelle, c'est le pays des mille et un forts.
Mmh. Alors, est-ce que ça se visite tout ça?
Alors, certains forts se visitent, et surtout, il faut essayer d'emprunter le sentier côtier car le panorama est splendide. De la tour du Guet, on peut même apercevoir des dauphins qui folâtrent dans la mer. Quant aux anciennes portes de la cité, elles étaient fermées encore chaque soir jusque dans les années 1970.
Étonnant. La ville était ainsi bien à l'abri, n'est-ce pas? Comme au Moyen-Âge, dans les villes en Occident.
Exactement. Et à propos de forts, voici l'histoire du fort Almorano à Mascate. Son commandant portugais voulait épouser la fille d'un marchand indien. Le père était tout à fait opposé à ce mariage et fit traîner les préparatifs de la noce pendant un an, tout en s'emparant subrepticement de la poudre à canon et des céréales. Le sultan put alors reprendre le fort. Et les Portugais furent chassés de Mascate. Le mariage n'eut jamais lieu.
Voilà une belle histoire. Voilà. C'est terminé, finalement.
C'est l'histoire de ce fort. On peut aussi apercevoir la silhouette d'un autre bateau, le Soar, comme la ville.
Comme
Soar,
la ville, hein.
Oui, qui est une réplique du Boutre qui atteignit Canton au 8e siècle, la Chine.
D'accord. Donc, ils ont commencé bien avant.
Bien avant.
Bien avant Christophe Colomb et les autres.
Ah, largement.
Et voilà. Et qui a été donc ce bateau qui a été construit comme autrefois?
Avec des écorces de plus de 75 000 palmiers et 4 tonnes de cordes, mais pas un seul clou. C'est-à-dire à la façon ancienne.
Très écolo.
Très, très écolo. Il faudrait s'y remettre. Mais on le fait toujours. Hein. C'est toujours une façon de construire les bateaux là-bas. La route côtière sinue superbement entre la mer et les montagnes et les falaises qui tombent à pic.
Oui, c'est magnifique alors ça. Et la ville moderne, parce que forcément, il n'y a pas qu'une vieille ville.
Non, il y a une belle ville moderne avec d'élégantes avenues bordées de palmiers qui nous mènent par exemple à l'Opéra Royal, construit en 2011 en marbre, dont l'intérieur somptueux est décoré de marqueterie et d'arabesques, ou alors à la grande mosquée, qui est sous un dehors d'une grande simplicité, extrêmement riche à l'intérieur, une richesse exubérante, avec aussi un immense tapis persan de toute beauté, tissé à la main. Ça a duré 4 ans pour le faire, et il a fallu 600 ouvrières pour le réaliser.
Ça me fait penser un peu à notre tapis.
Le tapis
de la cathédrale, je ne sais pas,
oui,
si
mais
je peux
il
me permettre
beaucoup
cette comparaison profane, mais bon.
Ben non, elle est assez sacrée, au contraire.
Absolument, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé à travers le monde, d'ailleurs.
Oui.
Hein. Voilà.
Donc, que dire d'eau de Mascale ? Des esplanades ombragées, des parcs bien entretenus font aussi de cette ville une capitale agréable à vivre. Et à la sortie de la ville, le jardin botanique de 420 hectares est le plus grand de toute l'Arabie.
Alors, voilà que je vous propose, parce que vraiment tout ça, ça laisse plus que rêveur, on est un peu bouche bée. Alors, une pause avant de suggérer quelques excursions dans Oman.
Avec cette musique qui semble venir du fond des âges.
Vous écoutez notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel et nous reprenons notre émission aujourd'hui. Nous visitons Mascate, la capitale d'Oman. Donc, on a déjà entendu beaucoup de choses, mais maintenant, parle-moi un petit peu peut-être de la société omanaise avant d'aller se promener.
Eh bien, la société omanaise, elle est fière de sa longue histoire. De ses coutumes, on porte toujours les vêtements traditionnels lors des grandes occasions, par exemple de splendides manteaux en soie rehaussés d'or. L'architecture est aussi d'une sobre élégance et d'ailleurs les monuments historiques sont soigneusement restaurés. Et tout cela est très différent des autres pays du Golfe car il n'y a à Oman aucune arrogance, aucun m'as-tu vu que l'on peut trouver dans d'autres villes.
Dans d'autres pays, c'est vrai.
Oui.
Albès est aussi finalement un pays qui s'est transformé en relativement peu de temps.
En très peu de temps même, et car la plupart des gens d'âge moyen se souviennent du temps où il fallait enfourcher un âne pour se rendre au village voisin, où l'éducation consistait à réciter le Coran sous un arbre, où les médicaments se limitaient à quelques herbes de montagne, d'ailleurs assez efficaces.
Donc on peut dire qu'il y a eu un changement extrêmement rapide. Dans l'ensemble, c'est devenu, on peut parler d'une réussite.
Oui.
La population est arabe et musulmane.
À prédominance arabe, mais il y a aussi une mosaïque de population liée à son origine et à son empire. Par exemple, une communauté de marchands indiens que nous avons déjà rencontrés, établie à Mascate depuis plus de 2 siècles. Les 3/4 des Omanais sont musulmans et ce sont des musulmans plutôt conservateur, mais tolérant.
On appelle ça, c'est ce qu'on appelle, non, l'islam modéré.
L'islam, qui pratique un islam modéré, c'est cela.
Alors, c'est un pays vraiment authentique, j'ai l'impression, avec un artisanat vivant, j'imagine.
Oui, et qui est utilisé pour ses fonctions pratiques, plus que purement décoratives. Alors, chaque région a sa spécialité, poterie, bijoux, tissage, construction de bateaux, vannerie, musique traditionnelle aussi, et original, on a du mal à l'imaginer, il y a des musiciens de cornemuse qui sont très populaires à Oman.
Très surprenant. Hein?
Oui, et ils jouent dans les cérémonies officielles, mais aussi lors d'événements internationaux comme la compétition royale de cornemuse à Édimbourg. Mm-hmm. Pour conclure, voici selon les Omanais les 4 secrets de la vie.
Écoute, alors, retenons-le.
Écoute bien. Le sens de l'humour, le courage, la vigilance et la foi religieuse.
Et avec tout ça, on devrait vivre heureux, n'est-ce pas ?
Je suppose.
J'espère. Alors, c'est à méditer, je crois. Et vraiment, tout cela donne envie de visiter ce pays et au-delà de sa capitale, Mascate. Parce que Mascate, bien sûr, mais le pays même...
Mais oui, il est grand, d'une part, et très varié. Et il offre une quantité de sites naturels magnifiques. Des montagnes escarpées, des déserts, des wadis, c'est-à-dire des oueds,
des fleuves,
ou des rivières, rafraîchissants.
Enfin, des rivières, plutôt, je pense.
Ouèdes, oui, c'est rivière, oui, en fait. Mm-hmm. Et puis un littoral sauvage encore. Mm-hmm.
Alors, par où commencer ? Que nous conseilles-tu, Christine ?
Eh bien, par exemple, le Wadi Shab, un des plus beaux sites d'Oman, avec ses piscines naturelles profondes aux eaux turquoises, où on peut nager, ses cascades et ses palmeraies en terrasse. Des martins pêcheurs aux brillantes couleurs volent de ci, de là, et les lauriers roses immenses au bord de l'eau fleurissent toute l'année. La région du Dauphard, elle, au sud, se couvre de verdure après la mousson et cela donne beaucoup d'oasis verdoyants.
Finalement, et puis n'oublions pas que c'est le pays de l'encens, comme on l'a signalé tout à l'heure.
C'est cela. Et dans sa principale ville, Salalah, il faut vraiment faire un tour au musée qui s'appelle Terre d'encens pour apprendre l'histoire de l'encens, découvrir son arbre, le Boswellia sacra, qui donne en incisant le tronc sa précieuse résine au parfum exquis. Chaque arbre rapporte 3 à 4 kilos, d'encens par saison. Et on peut acheter des grains ou des perles d'encens. À 30 km de Salalah, le tombeau de Job est le site religieux le plus important.
Tous les chrétiens doivent le savoir.
Oui, mais il n'appartient pas qu'au christianisme, il appartient aussi au judaïsme et à l'islam, ce personnage de Job.
Oui, effectivement, finalement, c'est un personnage de l'Ancien Testament
qui est commun à toutes ces religions.
Oui.
Et puis alors, il y a énormément d'autres choses à faire. Par exemple, des randonnées fantastiques dans le Djebel Shams, qui culmine à 3075 mètres. Au Wadi Ghoul,
Autre rivière,
qui évoque avec ses roches striées le Grand Canyon du Colorado. Dans les monts Ajar, on peut aussi observer des villages perchés au-dessus d'un canyon vertigineux. On peut également faire une virée dans les dunes de Sharkiya, dans le désert alors, cette fois, à dromadaire de préférence, plutôt que dans ces jeeps qui polluent quand même un peu l'atmosphère. Et puis, il faut aussi faire une visite aux villes de Sour, par exemple, qui est très attrayante et dont l'on peut faire des balades en boutre, en dos donc, vers les nombreuses îles autour du pays. Et puis, on peut aussi visiter Sohar, au passé illustre, Nizwa et son marché au bétail. Et puis, bien sûr, j'en passe.
On peut dire que il y a un patrimoine extraordinairement riche, j'ai l'impression.
Oui, et il ne faut pas manquer sur la côte le site d'Algins, qui est un important site de nidification pour les tortues vertes. Plus de 20 000 tortues femelles reviennent chaque année sur la plage, où elles sont nées, c'est quand même incroyable, pour pondre leurs œufs. En juillet, c'est la pleine saison pour observer la ponte de ces tortues. Évidemment, il fait très chaud. Autant y aller très très tôt le matin.
Il ne faut pas craindre la chaleur.
Du matin, le reste de la journée, il fait dans les 50 degrés, bien sûr. On est quand même dans un des pays les plus chauds au monde l'été. Et Oman joue un rôle donc important dans la survie de ces tortues vertes.
Il y a d'autres espèces peut-être ?
Oui, alors dans les eaux par exemple, on trouve la baleine bleue dans la mer d'Oman. C'est la plus grande créature vivante au monde. Il y a des flamands, des rapaces migrateurs, le magnifique léopard d'Arabie dans le Dauphard et dans des réserves protégées, des troupeaux d'oryx. Mm-hmm. Sais-tu ce que c'est que des oryx ?
C'est une sorte d'antilope, je pense, c'est
voilà, une grande antilope au beau pelage, à la tête claire, avec des traits noirs comme si la tête était maquillée. C'est très, très beau à voir. D'une façon générale, à Oman, on porte une très grande attention à l'environnement.
C'est une raison de plus d'apprécier ce pays, il me semble. Alors, que mange-t-on à Oman, puisque c'est quand même un point important ?
Du poisson, bien sûr, du requin séché, des dattes, beaucoup d'épices comme la cardamome, le safran et le curcuma.
Tout ça devenu très à la mode, maintenant. Redevenu à la mode.
Oui, c'est vrai. Et le plat de fête typique s'appelle le showa, S-H-O-W-A. Alors, c'est la viande de chèvre ou de mouton ou de veau ou de dromadaire, marinée dans du jus de datte et des épices, enrobée dans des feuilles de bananier, avant d'être cuite dans un four en terre pendant environ 12 heures. Et cela donne une viande merveilleusement tendre et parfumée par la fumée du bois et les épices.
Ça donne l'eau à la bouche, tout ça, hein. Malheureusement, tout ça, il nous manque. Les ingrédients nous manquent quand même.
Surtout le dromadaire.
Oui, c'est ça, je pense. Hein. C'est un pays véritablement plein de ressources et jusqu'à il y a peu, était totalement mystérieux.
Mais qui s'ouvre aujourd'hui au tourisme et regarde l'avenir avec confiance.
Eh bien, c'est sur cette note plus qu'optimiste que nous terminons aujourd'hui notre émission Capitale sur Radio Grand Ciel. À bientôt pour une autre visite.
Merci.
La prochaine fois, on changera peut-être comme continent. Et cette fois-ci, ce sera moi qui vous guiderai. À bientôt.
À bientôt.